Nous nous trouvons à parcourir la première épître de Paul à Timothée et nous sommes au chapitre 2 et nous allons voir du verset 8 au verset 15. Un passage très important, délicat, mais très important. Donc 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Dans le contexte, l'apôtre Paul explique comment on doit se comporter dans l'Église de Dieu. Et il parle là donc du contexte de réunion dans l'Église. Dans l'Église, les hommes prient et sont appelés, à partir du début du chapitre 2, à prier pour tous les hommes, pour ceux qui sont élevés en dignité et pour tous les hommes parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Et il dit qu'il faut qu'ils prient en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et il dit « Je veux aussi que les femmes ». Donc il s'adresse également aux femmes après avoir parlé aux hommes. Et là, il s'agit encore du comportement ou de l'attitude dans l'Église. Et c'est cela qui intéresse l'apôtre Paul ici. Et qui nous intéresse. Les femmes, verset 9, doivent être vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parant ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Le but ici de ces recommandations vestimentaires, c'est que la femme n'attire pas l'attention vers elle, mais qu'elle soit vraiment quelqu'un qui vient adorer le Seigneur. Il dit comme une femme, une personne qui fait profession de servir Dieu. À l'Église, on n'est pas là pour faire un défilé de mode. On n'est pas là pour séduire ou attirer des hommes. On n'est pas là pour se montrer qu'on est plus riche que les autres ou qu'on a plus de bijoux ou qu'on est plus belle ou qu'on est plus jeune ou qu'on est plus ceci ou cela. On est là pour être un corps ensemble, hommes et femmes, pour adorer le Seigneur. Et on doit attirer l'attention vers Christ et pas vers soi-même. On peut l'appliquer évidemment aux hommes, mais les hommes ont moins de différences vestimentaires. Les hommes, quoique maintenant, ça ne veut plus rien dire. Les hommes portent des bijoux aussi, des boucles d'oreilles, des piercings, etc. Vraiment, le but dans l'Église, c'est qu'on ne cherche pas à attirer l'attention. Il y a des... Alors, je parle pour les chrétiens. Il peut y avoir un visiteur qui entre, qui vient du monde, qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'est pas né de nouveau, ou un nouveau chrétien, quelqu'un qui vient juste d'accepter le Seigneur, et peut-être il ou elle va porter une tenue un peu bizarre ou surprenante, et ça peut arriver à tout le monde. Quand on vient d'une autre vie, voilà, ça nous est arrivé souvent de voir des personnes qui étaient plus ou moins presque hippies, et puis petit à petit, comme avait dit Jean-Alain une fois, les cheveux se raccourcissent et, pour les hommes, et pour les femmes, on devient de plus en plus modeste, etc. Mais pour un chrétien, quelqu'un qui est vraiment consacré à Dieu, qui est dans l'Église, il doit y avoir d'abord la décence. Les femmes doivent être vêtues d'une manière décente. Aujourd'hui, la mode est à montrer son corps. Donc, pour être très précis et clair, hein, pour les femmes, les décolletés sont quelque chose qui est à la mode, c'est-à-dire que la plupart des vêtements de femmes sont décolletés. Donc la chrétienne doit dénicher des vêtements qui ne sont pas décolletés ou couvrir, bien sûr, hein, sa poitrine et également les jambes ou en tout cas ne pas porter de jupes courtes ou de choses qui vont attirer l'attention des hommes, qu'ils le veuillent ou non. Les hommes peuvent être très consacrés. Ils sont attirés par les femmes. Dieu nous a fait comme ça au sens où il veut qu'on fasse des familles et qu'on ait des enfants. Il faut donc de la décence. Il faut que... Il ne s'agit pas de s'habiller en gris comme une gardienne de prison. Hein. C'est pas ça du tout. De ne plus être, avoir de personnalité, mais que ce soit décent, que ça ne soit pas flashy pour attirer l'attention sur soi-même. Parfois, il y a des personnes qui cherchent à attirer l'attention parce que, justement, ils ne sont pas équilibrés dans leur foi et ils veulent plaire particulièrement ou ils veulent qu'on les regarde ou qu'on les admire. Et quand on est près du Seigneur, ces choses tombent d'elles-mêmes. On ne cherche plus à être admiré ou à avoir la gloire. Au contraire, on veut donner tout l'honneur au Seigneur Jésus dans l'Église. Pudeur et modestie. Et la modestie est un mot que j'aime beaucoup. C'est vraiment l'idée d'équilibre. C'est-à-dire, pas encore une fois de robe de Christian Dior qui coûte 10 000 euros. Dans l'Église, on vient de milieux sociaux différents. On est tous différents. Mais on doit se mettre au niveau des autres et être modeste. Voilà. Et là encore, il y a parfois des compétitions entre femmes. Hein. Moi, je vais mettre un collier de perles, de vraies perles, et puis moi, je vais mettre des diamants, moi, je vais mettre des ceci. Et au lieu d'avoir un esprit chrétien et spirituel, un esprit d'amour, on a des défilés de mode. Et c'est pour ça que ici l'apôtre dit « Ne vous parez ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Alors, bien sûr, si on voulait prendre à la lettre, il faudrait jamais faire de tresses à ses cheveux. Mais en fait, là encore, dans la langue originale, il n'interdit pas de faire des tresses à ses cheveux. C'est que à cette époque-là, certaines femmes avaient des coiffures extrêmement extravagantes. Les femmes riches ou les prostituées. Donc, vous voyez le genre. Et aujourd'hui, ça existe encore, les coiffures extravagantes, hein, où on relève le chignon à 2 mètres de haut, etc. Où le but, encore une fois, c'est d'attirer l'attention sur soi. La femme chrétienne est modeste. Elle peut être magnifiquement coiffée, mais ça doit rester modeste. Ça ne doit pas montrer qu'on est ceci ou cela. Ça doit juste être féminin. Et personnel, encore une fois, Dieu n'interdit pas du tout la personnalité. Au contraire, Dieu nous a fait tous différents. C'est que Dieu aime la variété. Dieu ne veut pas qu'il y ait un costume d'église où on est tous habillés pareil, la même couleur, le même costume. Mais par contre, il veut cette modestie, cette décence. Et ensuite... Comme la Bible n'est jamais que négative, au verset 10, il dit qu'elle se pare au contraire de bonnes œuvres. Et la vraie parure qui a de la valeur, qui vaut quelque chose, c'est sa vie et c'est ses œuvres. Et dans la Bible et dans le Nouveau Testament en particulier, les femmes sont particulièrement reconnues pour leurs bonnes œuvres. Je pense un petit peu à toutes les femmes qui sont mentionnées dans le Nouveau Testament. Si vous regardez par exemple Jésus n'était pas marié, pour diverses raisons. Le fameux papyrus dont on a parlé récemment, où soi-disant Jésus parlait de sa femme, est totalement faux et ne correspond à rien d'historique. Tous les textes, tous les manuscrits, tous les papyrus de la Bible montrent que Jésus était célibataire, étant le Fils de Dieu, et puis il est venu pour mourir pour nous. Donc, sachant qu'il allait mourir, il n'était pas venu pour fonder une famille. Mais par contre, Jésus était entouré de femmes. Il a choisi que des hommes pour être ses apôtres, ses envoyés. Mais il avait des femmes, et la Bible nous dit qu'il y avait des femmes qui le soutenaient, notamment matériellement. C'est en Luc 8, versets 2 et 3, qui nous est dit que des femmes apportaient leurs biens pour aider Jésus et ses disciples. Donc, les femmes ont toujours eu dans le Nouveau Testament ce rôle de soutien, et même de soutien matériel. On trouve Dorcas dans les Actes, chapitre 9. Je ne sais pas si vous connaissez Dorcas, qui pourvoyait aux besoins des pauvres de l'Église avec des vêtements et qui faisait tout un travail social dans l'Église. Et souvent, c'est là que les femmes excellent, dans ce travail de bonnes œuvres et de faire du bien, d'encourager, de consoler, de compassion envers les autres. Et mesdames qui m'écoutez, je vous encourage à abonder dans ces choses-là, dans les bonnes œuvres. Pas simplement les bonnes œuvres dont on parle au dehors, de donner un clochard ou quelque chose comme ça, mais des bonnes œuvres dans l'Église, d'aider les personnes en difficulté qui viennent à l'Église et qui ont besoin d'aide, et d'avoir des idées. La femme vertueuse dans le livre des Proverbes est une femme qui avait trois idées à la minute. Hein. On voit qu'elle préparait ceci, elle faisait cela, c'était une femme entreprenante. Une femme chrétienne n'est pas une femme complètement éteinte, qui est là à l'église et qui chante et qui dit oui, oui. Une femme chrétienne doit être active pour le Seigneur, mais dans les bonnes œuvres, justement, comme on voit ici, sans chercher à attirer l'attention ou la gloire sur elle. Verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. D'abord, au sujet des mots, le mot qu'il emploie ici pour silence n'est pas le mot silence. Il y a d'autres mots dans le Nouveau Testament qui expriment vraiment l'idée de se taire absolument. Voilà, chute. Ça, c'est un mot qui veut dire d'être calme, d'être tranquille. Alors, pourquoi Paul dit-il que la femme écoute l'instruction tranquillement, avec une entière soumission? Parce qu'il faut voir qu'à cette époque-là, la foi en Jésus-Christ et Jésus-Christ lui-même a libéré les femmes. Chez les Romains, la femme avait très peu de valeur. La femme avait très peu d'instruction et elle était bonne à rester à la maison, etc. Elle était inférieure, vraiment considérée comme inférieure à l'homme. Chez les Juifs, la femme n'avait pas une haute valeur chez les Juifs judaïsants, hein, parce que dans la Bible, elles sont quand même mises en avant. Mais chez les Juifs, déjà dans la synagogue, il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Et puis, chez les pharisiens, les Juifs les plus pieux, ils priaient, et ils prient encore aujourd'hui, chaque matin. Les hommes prient, « Je te bénis de ce que je ne suis pas une femme. » Voilà, on ne le sait pas toujours, ça. Hein. Mais il y a cette misogynie, on peut dire, chez les orthodoxes juifs, qu'on retrouve dans l'islam, puisque l'islam s'est beaucoup inspiré du judaïsme et du christianisme en même temps, où la femme, là encore, n'a pas de droit dans le Coran, dans un procès, une voix de femme vaut un quart de voix d'homme. Hein, c'est-à-dire il faut quatre femmes contre un homme. Donc imaginez qu'un homme viole une femme, il faudrait qu'il y ait au moins quatre femmes en face pour témoigner. S'il n'y a pas quatre femmes en face, c'est la parole de l'homme qui compte. S'il dit « Ah, moi, j'ai rien fait », il est libéré. Donc ça, c'est dans le Coran. Et c'est toute une culture hein, où la femme, le mari, peut battre sa femme s'il a des doutes à son sujet. Pas simplement si elle a fait quelque chose, mais si elle a des doutes. Il peut la battre, il est encouragé à la battre. Quand Jésus est venu, il a libéré quelque part la femme en disant « Mais la femme est égale à l'homme devant Dieu ». Dans Galates, vous connaissez ce verset, il n'y a plus ni homme ni femme, ni esclave ni libre. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, c'est-à-dire la femme a un même accès à Dieu, elle peut prier le Seigneur, elle est sauvée comme l'homme, elle a le Saint-Esprit autant que l'homme, elle n'a pas moins de Saint-Esprit, moins de connaissances, moins de Bible. Il n'y a pas des passages de la Bible pour réserver aux hommes ou des morceaux de la Bible. Et cette libération a fait que certaines femmes grecques ou romaines sont allées plus loin. Hein, quand on est libéré, des fois, on s'en va de l'autre côté. Et il y a eu certaines formes de féminisme où, même à Corinthe, certaines femmes se comportaient comme les prostituées de la ville de Corinthe. La ville de Corinthe était connue pour ses prostituées dans le temple, dans les temples païens. C'était des prostituées sacrées, c'est-à-dire coucher avec elles était un acte religieux païen. Et dans l'église, certaines chrétiennes s'habillaient comme les prostituées. Non pas qu'elles étaient prostituées, qu'elles voulaient être prostituées, mais comme elles se sentaient libérées, elles disaient, moi je peux me couper les cheveux, je peux faire plein de choses, et je peux mettre des vêtements bariolés, des bijoux partout. Et parce que ces prostituées, quelque part, étaient attirantes par leur beauté ou par leur charme ou leurs attraits, et donc elles voulaient leur ressembler. Et là, Paul a été obligé dans l'Épître aux Corinthiens d'intervenir, hein, de dire, voilà. La femme doit rester soumise, et notamment dans l'Église. Ici, il répète ici que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Dans l'Église de Corinthe, il y avait des problèmes d'interruption du culte ou de l'enseignement. Et on voit ça en 1 Corinthiens 14. Il y avait beaucoup de désordre dans le culte à Corinthe, hein, entre le parler en langue, les gens ivres, les fausses prophéties et j'en passe. Et 1 Corinthiens 14, verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Voilà. Est-ce qui veut dire que la femme ne doit pas ouvrir la bouche depuis qu'elle entre dans l'église jusqu'à ce qu'elle sorte? Non, ce n'est pas ça que dit ce passage. Mais c'est pendant l'assemblée, la réunion, il y avait, par exemple, il y avait un prophète qui expliquait des choses, une révélation de Dieu, et puis il y avait une femme qui se levait, qui disait, mais pourquoi tu nous dis ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il y avait des interruptions brusques comme ça par des femmes. Et Paul donc doit dire, s'il vous plaît, taisez-vous pendant les réunions, laissez parler le prédicateur ou le prophète, et si vous avez des questions, vous demandez à votre mari, la plupart des femmes étaient mariées, à la maison. Ça rejoint donc ce qui dit ici en 1 Timothée, que la femme écoute l'instruction en silence, calmement. C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir de désordre dans la réunion. L'entière soumission. Et au verset suivant, 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. » La soumission, l'autorité. Ce sont des mots aujourd'hui qui fâchent. Ce sont des mots qui troublent, des mots qui choquent certaines femmes, certains hommes. Le mot soumission dans la Bible ne veut pas du tout dire suggestion. Je ne sais pas si vous connaissez le mot français, la suggestion, c'est-à-dire être un sujet, être une chose hein, qui appartient à un esclave quasiment. La soumission, dans le grec, hein, ça veut dire se placer en dessous, se mettre en dessous. Et en fait, c'est la personne elle-même qui accepte ou décide de se mettre en dessous. Mais pourquoi se mettre en dessous? Quel est l'intérêt? C'est pour que la femme, justement, soit un soutien. Pour soutenir quelqu'un, il faut être en dessous. Or, depuis le commencement de la création, la femme est un soutien. Elle a un rôle particulier. Si vous regardez la création, vous remarquez que d'abord Dieu a créé l'homme, et la Bible dit homme et femme. Il les créa, homme et femme, mâle et femelle. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont égaux dans la création. La femme n'est pas inférieure, n'est pas moins complète que l'homme. D'ailleurs, elle a été, dans le récit de Genèse, prise de la côte d'Adam. Et vraiment, ces penseurs chrétiens ont bien souligné qu'elle n'a pas été prise du pied ni de la tête, mais de la côte, du côté, c'est-à-dire elle est à côté. Et d'ailleurs, c'est son rôle dans la création d'être à côté pour soutenir, hein, pour encourager. Et lorsqu'il est parlé d'Adam et Ève, il est dit il faut qu'il ait une aide semblable à lui. Donc, semblable, l'égalité, mais une aide. Et là, on découvre qu'on peut être égaux, mais complémentaires et différents. Et c'est là où beaucoup de personnes ont du mal avec la soumission et l'autorité. Ils disent, si je suis égal, je suis pareil. Et ça, c'est le féminisme, hein. Les femmes doivent faire exactement comme les hommes. On ne doit rien leur interdire. Et donc, les femmes se sont battues pour avoir tous les droits des hommes. Alors, il y a certains droits qui me paraissent tout à fait légitimes, le droit de vote, par exemple, le droit de se promener seul dans la rue, le droit d'avoir même un travail. Et un droit aussi que je trouve devrait être accordé, c'est le droit d'avoir le même salaire que les hommes pour le même travail. Hein, une femme est payée moins qu'un homme en France pour le même emploi qu'elle suit. Alors on dit c'est parce que la femme s'arrête plus souvent lorsqu'elle a un enfant, elle est en arrêt pour maternité, et donc c'est un problème pour l'entreprise. Néanmoins, je trouve qu'elle mérite le même salaire. Néanmoins, il y a des choses où la femme est différente. Pourquoi ferait-elle exactement les mêmes choses que les hommes? Récemment, la neurologie, la science du cerveau, s'est vraiment attardée sur les différences entre les sexes. Et ils ont découvert vraiment des choses intéressantes sur l'utilisation des hémisphères du cerveau entre les hommes et les femmes. Notamment que les hommes utilisent beaucoup l'hémisphère droit et que les femmes utilisent plus les deux hémisphères. Pas l'hémisphère gauche, mais les deux. C'est-à-dire elles sont beaucoup plus polyvalentes dans leur utilisation du cerveau. L'homme, il est plutôt hémisphère droit. L'hémisphère droit, c'est tout ce qui est justement concret, rationnel. Et la femme est plus dans le tout, c'est-à-dire elle est à la fois dans l'intuition, l'émotion, le concret. Et ceux qui vendent des voitures aussi se sont intéressés à ce qui frappe les femmes lorsque on achète une voiture. En ce moment, c'est le salon de l'automobile. Et donc, les constructeurs auto font des voitures pour les femmes maintenant, parce qu'elles ont une grande part de décision et beaucoup de femmes vivent seules. Et donc, les voitures pour les femmes n'ont rien à voir avec les voitures pour les hommes, ou ne se présentent pas de la même façon. Un homme, vous lui présentez une voiture, vous lui dites, attends, ouvre le capot. Regarde combien il y a de chevaux et regarde le moteur 16 soupapes et l'injection directe. Alors, là, l'homme, il est ravi. Il dit, oh, ouais. Et puis les pouces, les jantes larges avec tant de pouces et machin, etc. La femme, qu'est-ce qu'elle va regarder? Elle n'a pas besoin même d'ouvrir le capot. Ça ne l'intéresse pas ce qu'il y a sous le capot. Elle va dire, oh, j'aime bien la couleur. Jaune citron, je trouve ça beau pour une voiture. Ou, oh, j'aime bien la forme, regarde la forme des vitres ou du siège ou du volant, ou peu importe. La femme, elle va être sensible à d'autres éléments de la voiture. En général, encore une fois, mais on ne peut pas dire toutes les femmes vont faire ça, tous les hommes sont comme ça. Et donc, c'est évident que nous sommes différents. Il n'y a pas besoin de faire des grandes démonstrations. Et nous sommes différents parce que Dieu nous a voulu différents pour qu'on soit complémentaires. L'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. Et la femme, notamment dans la création, dans le mariage et dans l'Église, a un appel, a une mission, un rôle, c'est de soutenir les autres. La femme doit soutenir son mari, doit l'honorer, doit l'aider à devenir un mari, un chrétien solide. Et la femme, même si elle n'est pas mariée, qu'elle soit célibataire ou pas, ou veuve, elle doit être dans l'Église un soutien pour les autres. Mais il y a des choses qu'elle ne peut pas faire, et notamment enseigner et prendre de l'autorité sur l'homme. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises protestantes, et ça arrive même dans le monde évangélique, où il y a une femme pasteur. Donc, c'est de plus en plus courant. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a souvent un manque d'hommes. Parce que la place de la femme dans la société ayant évolué, justement, les femmes veulent accéder aussi au rôle de pasteur. Et comme beaucoup de chrétiens ne pensent pas que ces versets ont une valeur d'autorité, que beaucoup de chrétiens ne croient plus que la Bible est vraiment l'autorité dans la vie et la foi, ils disent ben, pourquoi pas? Et là, il ne s'agit pas que les femmes soient moins compétentes, qu'elles prêchent moins bien ou qu'elles soient moins bonnes pasteurs. C'est pas ça l'idée. C'est qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible qui justifie qu'une femme dirige une église. Il n'y a aucun endroit. Vous prenez les 12 apôtres de Jésus, c'était 12 hommes. Vous prenez les diacres choisis à Jérusalem, 7 hommes, pas une femme. Vous prenez tous ceux qui sont des apôtres, qui prêchent, etc., des hommes. Par contre, il y a des ministères féminins dans l'Église et ils sont nombreux. Et ce n'est pas parce que l'homme est devant, on peut dire, en tant que pasteur ou enseignant de la parole, que la femme n'a rien à faire, bien au contraire. On trouve dans le Nouveau Testament des prophétesses, en Actes 21. Donc c'était notamment les filles de Philippe qui prophétisaient. Donc une femme peut prophétiser. Alors aujourd'hui, nous ne croyons pas qu'il y ait des besoins de prophéties inspirées puisqu'on a la Bible, mais une femme peut enseigner ou peut avoir des paroles qui vont toucher les cœurs. On trouve notamment Phébé, qui était une diaconesse dans l'église de Sancré, en Romains 16:1, et qui était une femme extrêmement active. Le mot qui est utilisé pour elle, c'est que c'était une femme qui s'occupait des autres, qui était vraiment elle qui prenait soin de toute l'église. Donc c'était une femme particulièrement précieuse dans l'église de Sancré. Pareil, en Romains 16, on trouve Perside, qui était au service du Seigneur, qui était une missionnaire. Et il n'est pas mentionné son mari. Dorcas, je l'ai déjà cité, qui donnait des vêtements aux pauvres. Je pense à Aquilas et Priscille. Là, c'était un couple. Et il y avait Aquilas, le mari, et Priscille. Et très souvent, on dit, dans le Nouveau Testament, on dit Priscille et Aquilas. Elle est mise en premier, probablement parce qu'elle était peut-être plus douée, ou je ne sais pas. En tout cas, elle avait quelque chose par rapport à son mari. Elle était plus dans le service du Seigneur que son mari. Mais il y a vraiment des femmes qui ont béni l'Église, qui étaient très actives comme évangélistes, comme diaconesses, des femmes âgées qui enseignent les jeunes mères. Donc les femmes âgées sont enseignées à s'occuper des jeunes mamans pour leur enseigner deux choses. Vous savez ce qu'elles doivent enseigner aux jeunes mamans? C'est dans Tite. À aimer leur mari et à s'occuper correctement de leurs enfants et de leur famille. Et j'aime bien le premier, à aimer leur mari. Les jeunes femmes doivent apprendre à aimer leur mari, et c'est les femmes âgées qui doivent les exhorter. Il est évident que les femmes sont particulièrement aptes à s'occuper des enfants, pour beaucoup de raisons, et sont particulièrement douées pour ça. Elles peuvent s'occuper des veuves, des orphelins. Elles prient dans l'Église, et bien sûr, dans la Bible, jamais il n'est interdit aux femmes de prier. C'est pour ça que quand il dit qu'elles doivent être en silence, ce n'est pas un silence absolu, puisque les femmes peuvent prier dans l'Église. L'hospitalité est un grand ministère aussi. Mais la direction spirituelle est pour les hommes. Ici, c'est quelque chose de clair dans ce passage. Alors, l'autorité, notre pays vit une crise d'autorité où on voit des jeunes qui frappent leurs professeurs, mais on voit aussi des parents qui frappent les professeurs parce que le professeur a mis une mauvaise note. On voit des policiers qui sont attaqués, agressés, tués par des jeunes gens. Toutes les autorités sont vraiment mises à bas. Et il y a une grosse crise d'autorité et tous les politiciens, les écrivains, les artistes, personnes qui dirigent un peu les choses sociales se disent « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a une crise d'autorité. Il faut faire quelque chose. On va enseigner la morale à l'école. » Franchement, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus efficaces à faire. Mais où est-ce que ça commence, l'autorité ? Ça commence à la maison. Si la maman, la femme, est rebelle à son mari, si la femme n'est pas un soutien pour son mari, mais qu'elle est plutôt quelqu'un qui est en rivalité avec son mari, ou qui va critiquer en permanence son mari, qui va se moquer, dénigrer son mari, elle n'est pas dans son rôle, et son mari va être dénigré, et comme il est une figure d'autorité, les enfants vont dire « Ah ben voilà l'autorité, regarde maman, regarde papa ». Et ça marque les enfants qui vont avoir une tendance à mépriser toute autorité après, en dehors de la famille, le professeur, la police, le président ou le juge. Et tout se passe dans la famille. C'est pour ça que la Bible parle tellement, hein, aux maris, aux femmes et aux enfants. Parce que quand la famille marche bien, la société marche bien. Mais la femme a un rôle très important dans la société, justement, et dans le foyer. Bien sûr, on se dit, mais si mon mari n'est pas quelqu'un de très bien, s'il n'est pas quelqu'un de spirituel, s'il n'est pas un leader, s'il n'est pas ceci, s'il n'est pas cela, ça n'est jamais une excuse pour le critiquer, pour le dénigrer, pour l'abaisser. Vous devez au contraire l'aider à devenir un homme spirituel. S'il n'est pas sauvé, vous devez le gagner à Christ, en priant, en l'aimant de l'amour de Christ. S'il est sauvé mais qu'il ne marche pas avec Dieu, vous devez le gagner sans parole, dit Pierre, hein, s'il n'obéit pas à la parole. C'est-à-dire, vous devez avoir un exemple, un modèle de grâce, d'amour, et prier pour lui qu'il se repente et qu'il change de conduite. J'avais été très ému en lisant l'histoire de cette femme chrétienne qui avait un mari incroyant, et ce mari avait une maîtresse attitrée. Et il allait voir sa maîtresse plusieurs fois par semaine, mais c'est surtout le mardi. Et il sortait de la maison, il dit au revoir, je vais me promener. Et puis, au bout de quelque temps, sa femme a découvert qu'il n'allait pas se promener, il allait voir sa maîtresse. Et elle a prié beaucoup pour son mari, et un jour, il a dit au revoir, je vais me promener. Elle a dit, je voudrais t'accompagner. Alors, il dit, mais il n'en est pas question, j'ai envie d'être seul, pourquoi tu veux m'accompagner? Il dit, écoute, je sais où tu vas. Je sais que tu vas chez Madame Untel, c'est ta maîtresse, je sais même l'adresse. Mais je veux t'accompagner parce que je t'aime, je veux aller avec toi jusqu'à ta porte et après je reviens, je te laisse tranquille. Alors le mari essaye de refuser, mais il ne peut pas parce qu'elle insiste tellement et avec tellement de grâce que. Bon, alors viens. Bon. Et donc la voilà accompagnant son mari chez sa maîtresse en prière et elle le laisse à la porte, elle lui dit au revoir mon chéri et elle revient à la maison. Eh bien, je peux vous dire que le mari n'est pas resté longtemps avec sa maîtresse. Et que très peu de temps après, il est devenu chrétien. La grâce peut faire beaucoup plus de choses que les récriminations, que les critiques. L'amour, hein, peut vaincre les cœurs les plus durs. Et la femme a un rôle essentiel, sans parler de la façon dont elle va transmettre cet amour et cette grâce à ses enfants. On parle des grands prédicateurs, on dit oui, c'est souvent des hommes, n'est-ce pas, puisque ce sont les hommes qui sont appelés à enseigner dans l'Église. Mais ces grands prédicateurs, je peux vous dire, ils avaient une maman qui a joué un rôle. Je pense à la maman des Wesley, par exemple. Ce n'est pas toujours le cas. Mais on dit derrière chaque grand homme, hein, il y a une femme, sans laquelle il ne serait pas un grand homme. Afin qu'on ne puisse pas trouver d'arguments culturels, Paul revient à la Genèse, donc au verset 13, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. S'il est vrai que l'homme et la femme sont égaux, dans l'ordre de la création, c'est Adam en premier. Et Ève en second. Ce n'est pas pour rien que Ève est en second, c'est parce que dans l'ordre de Dieu, il y a l'homme et la femme. Il y a Dieu, l'homme, la femme. Ou Dieu, l'homme, la femme, plutôt. Sinon, ça fait inférieur, comme ça, en ligne horizontale. Et la femme est une aide semblable à l'homme. Elle est son soutien, son aide, son réconfort, celle qui va l'aider à avancer. L'homme, le mari, doit bien sûr aimer sa femme et lui apporter tout ce dont elle a besoin. Il ne s'agit pas que l'homme dise tu es à mon service et puis que la femme s'éreinte et s'épuise pour son mari ou pour l'homme. Elle a besoin aussi d'amour et de reconnaissance. Mais après, il continue en disant, verset 14, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Si vous vous rappelez l'histoire du péché dans le jardin d'Éden, Satan s'introduit dans le serpent et il vient voir Ève qui se trouve près de l'arbre, interdit. On ne sait pas pourquoi elle est là, mais certainement que cet arbre l'avait attirée. Peut-être que la couleur des fruits, n'est-ce pas, Ah, c'est un beau fruit, il a une belle couleur, une belle forme, j'ai envie de le manger. C'est ce que dit la Bible, hein. Il avait l'air bon et agréable à manger. Et le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mourrez pas, etc. Et la femme mange du fruit. La Bible dit que la femme a été séduite par le serpent et par Satan. Elle s'est faite séduire parce que Satan lui a menti, l'a embobinée dans ses mensonges et a amené la femme finalement à suivre une voie de désobéissance, de rébellion envers Dieu, puisque Dieu avait dit vous ne mangerez pas de ce fruit, et envers son mari. Adam est arrivé sur ses entrefaites. Il voit sa femme en train de manger le fruit. Et elle lui donne du fruit et Adam le mange. Mais Adam n'est pas séduit. Adam, il pêche les yeux ouverts, comme on dit. C'est-à-dire, il est pleinement conscient et il ne se fait pas avoir. Il sait bien que c'est interdit, mais il voit sa femme et pour lui faire plaisir, ou je ne sais pas, ou pourquoi exactement, il prend du fruit. L'Épître aux Romains chapitre 5 dit que le péché est entré par un seul homme. Donc un seul homme, on peut imaginer qu'il s'agit d'Adam. D'ailleurs, dans le passage, il parle bien d'Adam. Le premier Adam, le péché est entré, la mort par Adam, et le second Adam, qui est Jésus-Christ, a enlevé hein, le péché et a apporté le salut. Donc, Adam n'est pas moins coupable que sa femme. Hein. Il est même le premier responsable. C'est lui qui devait garder le jardin et qui aurait dû empêcher le serpent de rentrer, de parler avec sa femme. Mais la femme s'est laissée séduire et a entraîné son mari après à sa suite. Et donc, il y a chez elle une faiblesse. Elle est sujette plus facilement à la séduction, tandis que l'homme est beaucoup plus théorique. Lui, il va pécher en toute conscience, si on peut dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun homme qui ne se fait jamais séduire et qu'il n'y a pas des femmes qui ont du discernement. Hein. Encore une fois, ne généralisons pas. Mais dans ce premier péché de l'histoire humaine, la femme s'est faite séduire. Et en fait, au lieu d'obéir à son mari, au lieu de dire au serpent, c'est vrai que j'ai envie de manger de ce fruit, mais je vais d'abord demander à mon mari ce qu'il en pense. Si elle avait fait ça, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu le péché originel. Peut-être. Et quand la femme outrepasse l'autorité de son mari, il y a des choses qui se passent, des conséquences graves. Voilà. Pour la femme et pour l'homme, hein, pour tout le monde. Et on arrive. Et donc, c'est pour ça que Paul dit, je ne veux pas qu'elle enseigne et qu'elle prenne de l'autorité sur l'homme. Il faut un homme pour diriger, ou des hommes, hein, pour diriger l'Église. Mais les femmes ont un rôle essentiel de soutien. Une Église sans femmes ne va nulle part. Hein. Dieu n'a jamais voulu des Églises d'hommes ou des familles où il n'y a que des hommes dedans. Et on a besoin les uns des autres. Comme dit quelqu'un, hein, si j'avais pas eu ma mère, je ne serais pas là. Donc on a besoin des femmes les hommes ont besoin des femmes. Mais chacun doit être à sa place. Chacun doit jouer pleinement son rôle. L'homme doit aussi avoir son rôle de direction et de prendre les choses en main, d'être le responsable. Parce que dans la Bible, le chef ou le directeur, hein, ça veut dire c'est quelqu'un qui est responsable. C'est pas quelqu'un qui aboie des ordres. Ah, faites ci, faites ça. C'est pas ça un chef. Un chef, c'est quelqu'un qui prend la responsabilité et qui se sent responsable de ceux qui lui sont confiés ou du travail qui lui est confié et qui va le mener à bien. Quand un mari est un bon chef de famille, la femme se réjouit et le suit et veut le soutenir. Quand le mari n'est pas un bon chef de famille, qui ne prend aucune responsabilité, qui laisse tout faire, souvent c'est la mère, la femme qui doit prendre tout sur elle. C'est malheureusement ce qui arrive. Et la femme, c'est extrêmement dur d'être le mari et la femme en même temps. Et là aussi, il faut prier, il faut que les hommes, hein, que nous les hommes, nous soyons des hommes, c'est-à-dire des personnes responsables, sérieuses, qui veillent sur leurs femmes, sur leurs enfants, sur leur église. Le verset 15 est un verset extrêmement difficile d'interprétation. Beaucoup se sont cassés le nez dessus. Elle sera la femme néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Bon, alors, est-ce que pour être sauvée, une femme doit avoir des enfants? Alors, les femmes qui n'ont pas d'enfants sont perdues pour l'éternité, c'est ça que veut dire ce verset? Évidemment non. Le mot sauvée peut avoir plusieurs sens. Déjà, on peut par exemple voir un rapprochement entre Ève et cette mère qui enfante. Dieu a dit à Ève, ta progéniture écrasera la tête du serpent. Donc, Dieu avait dit que d'une femme et de la descendance d'Ève viendrait le sauveur. Et Jésus est venu d'une femme vierge. Et donc, il y a peut-être un rapprochement à faire, c'est-à-dire que le salut vient de ce fils sauveur. Mais ça me paraît quand même un peu philosophique ou théologique, cette interprétation. Pour être plus pratique, sauver, ça peut vouloir dire sauver d'une vie mondaine, sauver d'une vie rebelle, sauver d'une vie de femme insatisfaite, d'une femme qui n'est jamais contente, qui n'aime pas les hommes parce qu'elle trouve que tous les hommes sont des idiots ou des sauvages ou je ne sais pas quoi. Sauver d'une vie de débauche, peut-être. Elle sera sauvée en devenant mère. Pourquoi en devenant mère? Parce que le fait d'avoir la responsabilité d'un enfant, normalement, ça vous met déjà du plomb dans la tête. Et la femme, à ce moment-là, reprend son rôle que Dieu lui a assigné, ce rôle de mère, de nourrice, de soutien. Et en prenant ce rôle, si elle persévère avec modestie dans la foi, l'amour et la sainteté, elle peut vraiment avoir une vie épanouie, bénie, plutôt qu'une vie gâchée, loin de Dieu. C'est comme ça, en tout cas, que je vois l'interprétation de ce passage. Je ne veux pas être dogmatique, mais de toute façon, ce passage est mineur dans la théologie, n'est-ce pas ? Néanmoins, c'est vrai que j'ai vu des femmes, lorsqu'elles se sont mariées ou lorsqu'elles sont devenues mères, changer d'attitude. Notamment, je pense, cette chrétienne qui était féministe pendant de nombreuses années, mais à fond, c'est-à-dire, je ne veux pas... si je me marie, je ne veux pas d'enfant. Donc ça, c'est le côté féministe, c'est-à-dire, je ne veux pas m'encombrer avec des marmots, je veux pouvoir être libre, mener ma vie comme je veux, marier à la rigueur, mais il ne faut pas que mon mari me prenne trop. Hein. Je veux être libre. Eh bien, cette femme, en se convertissant, Dieu a changé son cœur. Et elle a eu de la joie à pouvoir mettre au monde un enfant. Et elle dit, ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, elle est tellement heureuse d'être mère, d'être femme, et surtout de connaître le Seigneur. Le féminisme n'est pas une solution pour les femmes. Ça ne les rend pas plus heureuses. Au contraire, vous voyez, les féministes sont souvent très aigries. Elles ont une colère permanente. Elles ne sont pas dans la paix et dans la joie. Une chrétienne qui joue son rôle, qui fait des bonnes œuvres, qui est dans la gloire de Dieu, est la plus belle des femmes. C'est ce que dit notamment Proverbe. On peut regarder et lire juste ce verset, Proverbe 31, pour conclure. Proverbe 31, 29. « Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. » J'ai terminé mon message. Si vous avez besoin de partir, vous pouvez partir. Mais et sinon, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Parce que c'est un sujet que l'homme est responsable. Oui. Oui, elle peut se demander pourquoi elle ne veut pas d'enfant. Il y a probablement une raison un trouble là, quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle veut rester libre de faire ce qui lui plaît, de pouvoir sortir le soir et ne pas avoir un bébé à s'occuper? Ou quelles sont les vraies raisons pourquoi elle... Et je pense que rien qu'en réfléchissant à ça et en remettant à Dieu, on se rend compte que ce n'est pas des bonnes raisons. Par contre, si on a une raison médicale ou une raison, ou si on dit je suis trop âgé ou je ne sais pas, il peut y avoir d'autres raisons valables. Ce n'est pas une obligation de faire des enfants. Mais quand on se marie, on a... Le mari attend des enfants en général, et puis là, on se marie aussi pour fonder une famille, pas simplement. Voilà. Mais c'est pas juste de prier, je dirais, c'est de se dire, mais quelles sont mes motivations? Oui? Oui. Oui. Voilà, non, c'est sûr que c'est partout. Mais l'épître à Timothée concerne surtout l'église locale. Voilà. Mais c'est évident que s'il dit ça, ce comportement dans l'église. On va pas s'habiller comme une prostituée dehors parce qu'on est en dehors de l'église. Donc, c'est un principe qui est général. Mais là, il s'intéresse vraiment particulièrement au comportement dans l'église parce qu'il y avait des choses à corriger et à enseigner aux femmes dans l'église. Voilà. Dans la rue, on ne peut pas toujours contrôler ce qui se passe, je veux dire. Dans l'église, on peut enseigner. Dans la rue, je ne vais pas enseigner les femmes à s'habiller correctement. Voilà. Mais dans l'église, je peux dire voilà ce que Dieu demande d'une femme chrétienne. Mais pour la femme chrétienne, c'est tout le temps. Voilà. Enfin, pas d'élégance, mais de...
négligée.
C'est ça. Oui.
Alors, il s'agit d'avoir un bon équilibre.
Oui, vraiment. C'est vrai. Il y a vraiment, la Bible demande l'équilibre d'être habillé de façon jolie, mais pas.
Moi, je me suis rendu compte que la modestie inclut la pudeur.
Oui.
Si on s'habille modestement, la pudeur est là.
C'est ça. Oui. C'est des mots très proches d'ailleurs, enfin, dans le sens.
Néanmoins, c'est les deux règles pour l'habillement, aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
Voilà. Parfois en été, on a des hommes qui viennent en short, t-shirt à l'église, donc ça, c'est pas modeste, ni c'est pas bon. Voilà. C'est des hommes, hein. C'est pas juste les femmes, hein. Donc, alors après, il ne s'agit pas d'en faire des lois, tu vois, est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit. La Bible n'interdit pas de porter des boucles d'oreilles ou même un collier ou quelque chose, mais il faut que ça reste modeste. Il faut que ce soit juste joli, féminin, mais que ça ne soit pas une compétition de bijoux, de, tu vois. Mais la Bible n'interdit, il n'y a vraiment pas d'interdiction des bijoux, des boucles d'oreilles, des choses comme ça. Voilà. C'est vraiment... Là encore, il n'y a pas d'interdiction. Il y a des églises qui interdisent le pantalon. Hein? Des églises baptistes aux États-Unis notamment. Donc, par contre, entre une jupe un peu courte et un pantalon, je trouve qu'un pantalon est plus modeste pour une femme. Et puis, il y a des pantalons féminins. Je crois qu'une femme doit être féminine quand même. Donc, si une femme s'habille comme un homme, vraiment comme un homme, il y a un problème là, qu'est-ce qu'elle d'identité. Mais il y a des pantalons, il y a des femmes d'affaires qui ont des pantalons, elles sont très féminines avec leurs pantalons, voilà. Ah, ça c'est sûr. C'est ça, on voit bien que... Voilà, donc dès qu'on fait des lois, vous savez, où c'est gravé dans le marbre, il y a les 10 commandements, et puis voilà, on ne va pas en rajouter. Simplement, c'est l'esprit qu'il faut retenir, d'être prude, modeste, de glorifier le Seigneur. C'est surtout l'esprit que la lettre, toujours. Hein. Voilà. Vous avez des églises où tout le monde est habillé impeccable, mais l'esprit n'est pas là. Voilà. Il peut y avoir l'orgueil spirituel ou l'orgueil tout court. Voilà, c'est ça. Oui, des églises où on se voile, par exemple. Oui. Déborah. Mais même son exemple est très intéressant. Ben, l'exemple de Déborah est formidable, c'est que Déborah ne veut pas diriger. Elle ne veut pas. Mais c'est l'homme à qui elle fait Barak qui dit « Si, si, vas-y, Dieu t'appelle. » Donc, elle ne veut pas, elle freine des quatre fers et puis, bon, ben, finalement, il faut qu'elle se jette dans la mêlée. Et elle a demandé que Barak soit là. C'est lui, oui, peut-être. Oui, là, je ne me rappelle plus le détail. Voilà, il demande qu'elle l'accompagne, d'accord. Et donc, là, on voit que c'est une femme, justement, qui a de la retenue, mais qui est la seule à avoir vraiment le courage d'affronter, qui est spirituelle. C'est une sorte de Jeanne d'Arc, si on peut dire. Hein. Mais elle a quand même cette retenue. Tu regardes la femme de Nabal, le fou, hein. Elle prend une initiative d'aller voir David et de dire « Ne tue pas mon mari » parce que David était prêt à le massacrer. Hein. Et elle prend des initiatives, elle se met en avant, elle dit « Mais en fait, elle le fait d'une façon très modeste et très soumise à son mari. Elle dit « Elle protège son mari alors que c'est un fou, quoi. C'est un fou furieux. » Donc, les femmes se mettent en avant parfois dans des situations vraiment parce qu'elles ont un courage que les hommes autour n'ont pas. Mais ce n'est pas pour ça qu'elles prennent autorité à ce moment-là, vraiment. Les femmes de foi ne prennent pas autorité. Je ne sais pas si tu penses à d'autres exemples dans l'Ancien Testament. Ou... Ouais.
Aussi, il y a une progression de nos jours, même par exemple pour le culte, pour plein de choses. On prend les exemples de l'Ancien Testament, alors que l'Église a ses propres consignes de Dieu.
Oui, mais de toute façon, dans le temple, dans le tabernacle, il n'y avait que des hommes. C'est pareil. Hein.
Ouais.
Ah oui. C'est sûr.
Ouais.
Oui, Amar. Oui. Donc, c'est un peu cette idée que dans sa constitution, la femme est plus sujette à la séduction que l'homme. Comme je vous ai dit, la femme n'est pas faite pareil. Elle n'est pas sensible aux mêmes choses. Elle ne fonctionne pas même de la même façon, hein, dans son cerveau, dans sa façon de penser, etc. Et donc, la femme est plus facilement séduite que l'homme en général. D'où le fait que Dieu veuille protéger la femme et l'Église en ne mettant pas une femme au premier poste, voilà, en première ligne. C'est un peu ça l'idée. Oui. Donc sauver... Oui, tout à fait. Oui, oui. Et quelque part, le salut est venu de son enfant, enfin, de sa descendance. C'est pour ça qu'il y a un rapprochement peut-être à faire, mais qui est quand même un peu compliqué. Mais pour la femme, on peut l'appliquer à la femme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une femme qui vit loin du Seigneur ou qui ne trouve pas sa place dans la vie ou dans la société peut trouver sa place en devenant mère. Le salut peut avoir plusieurs sens. Hein.
Là, le salut, c'est la sanctification.
Voilà.
Pas de justification.
C'est ça.
Donc, si on l'applique à la justification.
Ah oui, on l'a.
C'est les œuvres.
Ouais.
Là, c'est la sanctification.
Ouais.
Donc, elle est protégée quelque part. Elle rentre dans le plan de Dieu parce qu'on est créé pour procréer, pour avoir des enfants. Et donc, donc elle rentre dans le plan de Dieu et elle est en sécurité. Si elle ne veut pas rentrer dans le plan de Dieu, elle se rebelle au plan de Dieu, eh bien, il y a un problème dans sa vie chrétienne.
Ouais. Oui, de sanctification. Il parle dans le titre des jeunes veuves qui restent, donc qui sont veuves jeunes, et qui dit il faut qu'elles se remarient parce que sinon elles vont être tentées d'aller à droite à gauche et de tomber dans le péché. Donc c'est un peu toujours cette idée, quoi. Entre l'avortement et le... Ouais, c'est ça.
Ils attrapent un enfant comme un drapé de maladie.
Oui, ouais, certaines femmes...
s'en débarrasser par tous les moyens.
C'est ça.
Donc, ouais. On ne peut pas dire qu'elles vont marcher dans la sanctification.
Non. Non, ça, c'est sûr. Gina, oui.
Une autre chose, c'est que comme nous, on est dans une société qui est quand même décadente, on voit l'inversion des rôles. Il y a beaucoup, par exemple, même dans les gouvernements et tout ça, beaucoup d'hommes qui ont des histoires avec des femmes et tout ça, alors que les femmes paraissent plus sérieuses,
oui,
parce qu'elles conservent plus longtemps certaines valeurs.
Mm-hmm.
Et elles aussi, je veux dire, tout tombe
oui,
un jour ou l'autre. Donc, dans ça, on dirait que les hommes sont plus facilement séduits, mais mm-hmm, c'est pas ça, c'est qu'ils ont abandonné le sérieux de leur rôle et ils font ça presque exprès et la femme rattrape un peu les choses et ni l'un ni l'autre est vraiment le plan de Dieu, c'est ça la décadence, tout est renversé et n'importe quoi.
Le problème de la société, c'est qu'elle infantilise les hommes.
Mm.
Ils ne sont jamais des hommes, des adultes. Et donc les femmes sont obligées de prendre des responsabilités parce qu'elles ont des enfants. Le premier enfant qu'elles ont, c'est leur mari.
Oui, c'est ça. Le gros bébé.
Et ça, ouais, malheureusement, c'est,
ouais, c'est la décadence des hommes, si on peut dire. Hein. Ouais.
Après, bon, dans d'autres pays,
ouais,
l'homme a beaucoup plus de sérieux. Mais...
C'est que les sociétés non, où Dieu n'est pas premier, c'est le pendule, où les hommes sont machos carrément. C'est-à-dire, ils font rien, la femme doit tout faire, et se soumettre, mais presque à l'extrême. Où les hommes sont tellement libéraux, si on peut dire, qu'ils deviennent plus des hommes, et ils sont des femmelettes, et les femmes sont obligées de prendre les rênes. Mais on a du mal à trouver l'équilibre où l'homme joue son rôle et la femme joue son rôle. Et ça, normalement, on le trouve en Dieu, quand on marche avec Dieu, ça se met en place tout seul un peu. C'est ça.
On est toujours
extrême. Ouais.
On penche toujours vers un pôle plutôt que vers un autre. Hein.
Ouais. Cet ami de Virginia qui travaillait à la NASA, c'est ça ? Et son mari était chercheur de haut niveau en informatique et ils étaient chrétiens tous les deux. Mais elle ne voulait pas d'enfant parce qu'elle avait son super job à la NASA. C'est-à-dire, vous voyez le genre, quoi. Et en plus, elle avait ce côté féministe des années 60, donc double raison pour ne pas avoir d'enfants. Et quand elle voyait des femmes avec plein d'enfants, elle disait « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et puis un jour, dans leur église est venue où il y a eu une conférence sur la famille, et le Saint-Esprit l'a convaincue de péché, d'abord, elle s'est dit « Mais c'est une mauvaise attitude que j'ai. » Et là, elle lui a dit « Mais Dieu veut que tu aies des enfants, et que tu t'en occupes, et que tes enfants marchent avec Dieu, et que ce soit une bénédiction. » Et donc, après discussion avec son mari, elle a décidé de quitter son travail à la NASA. Donc, c'était pour elle un grand, grand sacrifice pour avoir des enfants. Et il s'avère qu'elle en a eu 7. Donc, elle est passée de pas d'enfants à 7. Et elle s'est très bien occupée. Elle a fait, la plupart, je crois, était école à la maison, c'est-à-dire un énorme travail pour faire l'école à la maison de ses enfants.